Pépite.
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 Le podcast du Master MTI.
Aujourd'hui, je prête ma voix pour la dernière fois à la pépite du MTI et j'ai l'honneur de le faire en partageant avec Aurélien notre rencontre avec Denise et Michel Cruette. Dans cet échange à quatre voix, ils nous livrent les souvenirs d'une vie incroyable. Leurs mots s'entremêlent et se font écho. Je remercie Aurélien pour sa participation et je le remercie également d'avoir permis ce moment suspendu, c'est le cas de le dire. Denise est née en 1937, elle est pilote mais également professeure des universités honoraires qui a exercé à Paris 6. Elle est originaire du sud de la France, tout comme son mari Michel, ingénieur retraité de DFGDF, né en 1935, qui est également pilote. Elle a son insigne de diamant, elle est formatrice d'instructeur, médaillée de l'aéronautique, médaillée d'or de la Fédération française de vol en planeur et vice-championne d'Europe de vol à voile en 1981. Aurélien, qui m'accompagne, est élève du master MTI, biologiste de formation, et il s'apprête à devenir pilote d'avion. Cette année, il a proposé à mes camarades du master de découvrir le planeur. Je vous laisse vous installer dans le cockpit étroit de l'engin, prendre connaissance de la manette. Un pilote est installé derrière vous et possède également une manette. Vous êtes en sécurité, pas de panique. À l'extérieur, Denise vous sourit, rassurante. Mais avant même que vous puissiez lui rendre l'appareil, l'avion tire le vélivol, accélère et décolle, vous entraînant avec lui. Je vous laisse maintenant planer au-dessus de la scène et découvrir cet échange assez incroyable que nous avons eu tous les quatre.
Pépite. Donc, bonjour Denise, bonjour Michel et bonjour Aurélien.
Bonjour.
Pépite est ravie de vous recevoir aujourd'hui. Donc comment vous vous sentez là?
Très bien.
Très bien, tout le monde se sent 2h30
de vol.
Oui, on vient de voler là.
Ah oui, d'accord,
on vient juste de se poser.
2h30. C'est
pour ça qu'on est...
Ça va, ça se verra pas à l'enregistrement. Alors j'aimerais commencer par juste votre rencontre avec Aurélien. Aurélien, j'aimerais... juste que tu racontes comment tu as rencontré Denise.
Alors, on s'est rencontrés par Paris 6, par l'association sportive de Paris 6, qui proposait quelque chose qui était assez original même, et que je crois pas que ça existe quelque part ailleurs, mais c'est le vol à voile dans les disciplines sportives, quoi, avec le saut en parachute, qui était aussi quelque chose qui existe à Dauphine aussi, mais c'est pas quelque chose de commun, quoi. Donc on s'est rencontrés par là.
Voilà.
D'accord. Et c'était en quelle année, ça?
C'était en... J'étais en 2017, 2018, dans ces eaux-là. 2018, je crois. Oui, voilà. C'est 2018, ouais.
Et donc, ton premier vol à voile, tu l'as fait...
J'ai fait avec Denise.
Avec Denise.
En réalité, mes parents m'avaient amené quand j'étais beaucoup plus petit ici. Je crois que je devais avoir 10 ans. Mais ça m'avait tellement marqué que je me souvenais du terrain quand je suis revenu. Donc, mes parents m'avaient amené.
Ouais. Et tu nous as amené... donc, tu as amené quelques personnes de la classe voler.
Oui, ouais. Ça c'était bien.
C'était super.
Et on a eu combien? 8 personnes.
Oui, dont moi.
Ouais,
c'était assez incroyable. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites, Denise? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'association, des deux associations du coup, et expliquer un peu où on est, ce qu'on fait, voilà.
Alors l'AVO, l'association aéronautique du Val d'Oise, existe depuis 1945.
Okay.
Elle a été créée à l'occasion d'un jamboree. Enfin, c'est pas l'AVO qui a été créé, c'est le club de voleurs de Gironde.
Le scoutisme français.
Enfin, le scoutisme français.
Il y a eu
en bas, ils avaient campé en bas dans la boucle de la Seine. Et puis, ils se sont attaqués à la création d'une piste ici. Ils ont eux-mêmes défriché, parce que c'était des champs. Et donc, il n'y avait que la piste 2204. Voilà, c'est parti de là. Et puis après, il y a eu une fusion entre un club qui venait de Chavenay, à côté de Paris, et puis l'association qui était là. on a fusionné pendant, enfin, pendant un an, on est venu avec nos planeurs, on a regardé si on pouvait s'entendre. C'était une sorte de concubinage et qui a fonctionné. Et donc, on a fusionné. Et l'association a été créée en 1972, je crois, quelque chose comme ça. Alors, Michel, de son côté, avait créé un club de vol à voile pour EDF. Et moi, j'ai créé en premier lieu un club de vol à voile pour le CNRS, parce qu'à l'époque, j'étais au CNRS. Puis, j'ai fini ma thèse, donc je suis allée à l'université, et puis je me suis dit, c'est pas le tout, maintenant on va faire quelque chose pour l'université. En fait, j'avais pas tellement pensé, mais ce sont les étudiants qui, à la fin d'un cours de mécanique, sont venus voir. Madame, il paraît que vous faites du vol à voile. Ben, je dis oui. Ben, on voudrait faire du vol à voile. Combien de vous? 10. Ah, 10. Bon, et ben, on va aller voir l'AS. Et c'est comme ça que c'est parti. Alors, je dis, vous allez en occuper, bien sûr. Oui, on va s'en occuper. Ça fait 30 ans que je m'en occupe. Voilà. Bon, alors là, depuis quelques temps, malheureusement, les financements que je pouvais obtenir se sont taris. Ça a changé de méthode. Et donc, il a fallu créer autre chose. Et c'est pour ça qu'on a créé la VEP, et qui maintenant va s'intéresser à toute la région parisienne, toute l'Île-de-France, et qui pourra subventionner, j'espère, les étudiants. Voilà. C'est ça l'idée.
D'accord. Merci beaucoup. Alors ici, qui vole en planeur? Qui sont les personnes qui viennent voler
Absolument. Toutes les personnes qui veulent venir peuvent venir. Nous avons toutes les professions. On a des jeunes, on a des vieux. C'est ouvert à tout le monde.
Charcutier, militaire, oui. Évêque ou presque.
D'accord.
Non,
c'est absolument ouvert à tout le
tout
monde.
Bien.
Hein. Mais okay. C'est notre maison et donc c'est pas une comment dire, c'est pas une entreprise. Et donc chacun doit participer. Hein. C'est balayer, ramasser les ordures, tondre. C'est notre maison.
On rappelle que c'est une association.
Loi 1901. Voilà. Sans but lucratif.
D'accord. Et donc vous habitez ici
Ah non. Non. Là, c'est la maison de pour venir voler.
D'accord.
Non. Nous, on habite à Boulogne, Billancourt, depuis des années. Mais effectivement, comme on était beaucoup là, on a estimé que faire des navettes permanentes entre le samedi et le dimanche, c'était pas possible. On a fait beaucoup de stages d'été. On était là pendant 15 jours ou 3 semaines. Donc, on a d'abord une caravane, et puis après, on s'est acheté ça, un mobil-home.
Voilà. D'accord. Merci. Et donc, le planeur, c'est quoi? Le vol à voile, c'est quoi? C'est quoi la différence avec l'avion? Et au niveau des sensations aussi, quelle est la différence?
Il n'y a pas énormément de différence au point de vue sensation. Ce sont des engins qui volent de la même façon, simplement l'un a un moteur et l'autre pas. Et encore que maintenant, nous avons quelques planeurs, genre James Bond, qui ont un petit moteur dans leur fuselage. Et quand il y a besoin du moteur, on ouvre la trappe. Il y a un pod qui sort et une hélice qu'on peut mettre en route. Et on arrive à rester en l'air. Parce que le planeur, s'il n'y a pas d'ascendance, il ne fait que descendre. Voilà.
Oui, donc comment, peut-être pour expliquer aux gens, comment ça marche un planeur? Comment on fait pour rester en l'air avec un planeur?
C'est quoi,
avec un avion, un aéronef qui n'a pas de moteur, en tout cas.
Oui. Eh bien, le planeur, par définition, il descend toujours par rapport à l'air. Mais si on rencontre des zones où l'air monte plus vite que le planeur ne descend, au total, le planeur monte. C'est comme ça qu'on arrive à regagner de l'altitude. Donc, par rapport à un bateau qui va faire des caps à droite et à gauche pour le vent, nous, nos caps, ils sont vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas.
Ok. C'est vrai que je me souviens, on allait de nuage en nuage, parce que, si je ne me trompe pas, les points d'ascendance, on arrive à les voir, parce qu'ils sont souvent au milieu du nuage, c'est ça?
Tout à fait. C'est l'ascendance qui fabrique le nuage.
Ok.
Voilà, c'est pour ça que le nuage, c'est la preuve qu'il y en a une.
Planeur, oui, on voit très bien ce que c'est. C'est des avions avec des ailes très allongées. C'est très très fin quand on en voit en l'air. Quand on est au sol, ça fait pas de bruit.
Donc, c'est très gracieux aussi.
C'est très gracieux. Ouais,
c'est comparable au voilier. Hein, oui. C'est voilà la différence entre le bateau à moteur et le voilier. Nous sommes les voiliers de l'air.
Oui, exactement. C'est le premier épisode de Pépite était sur le voilier justement.
Ça tombe bien.
On a beaucoup de communautés, de fraternité avec les gens de
la voile. Voile.
Bien sûr. D'abord, d'ailleurs, on s'appelait autrefois vol à voile.
Vol à voile.
C'était un petit peu idiot parce qu'il n'y a pas de voile, mais c'était les forces qui sont dans l'atmosphère, quoi, c'est tout.
Ça s'est renommé vol en planeur. Il y a pas.
Voilà. On a changé vol en planeur. Oh, ça, c'était uniquement une histoire de subvention. parce que quand on propose, quand on fait des demandes, on est confondu avec la voile. Ouais. Donc maintenant, on a bien mis planeur, mais c'était plus joli, la voile.
Vélivole
ou... Oui, vélivole, voilà.
Mmh. Ok. Et comment est-ce qu'on devient pilote de planeur? On dit pilote, je ne sais pas.
Oui. On est pilote, absolument. Et bien, ça s'apprend. Il y a des planeurs biplaces. L'instructeur est derrière, l'élève est devant. Au bout de 15-20 heures de vol, on a acquis tous les réflexes, tout ce qu'il faut pour voler correctement et arriver à venir se poser sur un terrain ou dans un champ.
D'accord.
Mais alors, si on revient un peu sur la formation, peut-être, oui, on peut rappeler qu'on peut commencer assez tôt.
Ah oui, à 13 ans.
Planeur.
Et on peut voler seul à 14.
Donc, ça veut dire qu'à 14 ans, on n'a pas le droit de conduire seul dans une voiture.
Voilà. Oui.
Par contre, pour être lâché en planeur, ça,
on peut. Mais par contre, on ne passera sans brevet qu'à 16 ans.
C'est-à-dire que comme ça, notre fils ne pouvait pas venir tout seul pour voler, enfin sur la route, mais pour voler, pas de problème.
Il pouvait voler tout seul, tout à fait. Ben moi, j'ai eu mon brevet avion avant d'avoir mon permis de conduire.
Voilà.
J'étais breveté à 17 ans et donc...
pareil, moi j'ai été lâché solo avion avant de prendre à conduire.
Il y a des stupidités comme ça, incroyables. Enfin, stupidité, non. Sur la route, il y a aussi beaucoup plus de monde autour.
Oui.
Alors, il faut savoir, comment dire, s'insérer dans la circulation.
C'est ça.
Mais en l'air, il faut faire attention aussi.
Oui, enfin, il n'y a pas de platane en l'air, déjà.
C'est vrai. Mais justement, 17 ans, vous disiez, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre parcours, l'âge de votre premier vol,
oui.
Tout premier vol, donc pas forcément seul, et ensuite bon, l'âge de votre premier vol en solo du coup de 17 ans.
Oui,
mais
moi c'est très simple, papa faisait du vol à voile et de l'avion, donc j'ai été amenée sur des terrains à l'âge de 7 ans. Et il est normal que quand j'en ai eu 16 ou 17, j'ai eu envie de commencer, quoi, voilà. En fait, c'était dans la famille.
Okay.
Alors, ce qui est curieux, c'est que mon père n'était pas du tout d'accord pour que je fasse du vol à voile. Non. Il a fallu que maman me pousse et dise à papa, mais si, laisse la voler quand même, c'est pas possible. Voilà. Donc, j'ai commencé par l'avion. J'étais lâché un avion à 9h30 de vol sur un stamp.
À 9h30, c'est quand même. Ouais.
C'est tôt,
quelque
non
chose.
Hein. Oui, c'est quelque chose. Oui, mais honnêtement, c'était un peu prématuré, je trouve. C'était... Et j'ai emmené mon premier passager à 15 heures de vol quand même.
Ah, ouais, ça. Bon, ça se fait plus aujourd'hui. Il faut rappeler que le stamp, c'est des avions biplans,
oui.
Cockpit ouvert, donc on a la tête dehors. Oui. C'est pas évident à maîtriser au sol, parce que c'est des avions de conception ancienne avec les deux roues.
Oui, et pas évident à poser du tout. C'était difficile à poser.
On dit, ça part à gauche, ça part à droite.
Non, puis on voit pas bien le sol, donc l'atterrissage était un peu aléatoire.
Mais non.
Bon, enfin, voilà, on l'a fait.
Oui. C'était pas des exploits.
Et sur le terrain donc, où je faisais de l'avion, de l'autre côté de la piste, on avait deux axes de décollage. Il y avait l'avion d'un côté et le planeur de l'autre. Et une fois que j'étais lâché un avion, breveté, j'ai eu le tort de passer du côté des planeurs et j'y suis restée.
C'est super. Et du coup, vous avez rencontré Michel
sur un terrain de vol à voile. Dans un centre national qui s'appelle, qui n'est plus un centre national, qui s'appelle la Montagne Noire. C'est entre Cassel-Nozary et Revel. Et donc, à cette époque-là, moi, j'y passais pratiquement tous mes étés. Et puis, on s'est rencontrés, il est venu faire un stage. Voilà. Ça s'est passé comme ça.
Et c'était en quelle année, ça?
Alors, l'année, je ne sais plus, mais ce que je sais, c'est que en la fin de l'année, nous allons fêter nos 60 ans de mariage.
Ah oui.
Et donc,
avant,
donc oui. C'était au moins 62 ans.
Voilà. Okay. Oui. Incroyable.
Et nous avons fait aussi le Tour de France aérien des jeunes pilotes. Ah, donc lui, il était accompagnateur. Moi, j'étais jeune pilote, accompagné par quelqu'un d'autre.
Sur quel avion?
Moi, j'avais un Jodel.
Un 112.
Oui.
Et moi, un émeraude.
Ouais.
Ah, oui,
et moi, il m'est arrivé une mésaventure incroyable. On avait une halte à Montluçon, donc j'arrive, je me gare. Et puis l'avion suivant arrive, et puis il ne s'est pas garé. Il nous a mangé l'aile avec son hélice. Elles étaient chaussées, c'était des filles, elles étaient chaussées avec des socs, et elle a dérapé sur le panneau. Ce qui fait que moi, mon avion était fichu, et il avait l'aile au cul.
Parce qu'il faut préciser, c'est des ailes
en bois. En bois, oui, c'est ça.
Voilà.
Et donc, moi, j'ai continué le Tour de France à bord de l'avion d'un commissaire du Tour. Voilà. Mais je n'ai pas fini avec mon avion.
Mais il y a beaucoup de femmes qui sont pilotes en planeur ou...
Il y en a de plus en plus.
De plus en plus.
Mais c'est vrai que on a du mal. On est à peu près 10%.
Quelques milliers quand même. Oui. Sur les 12 000, il y en a au moins 1 000.
Oui, c'est ça.
Et à l'époque, par contre...
Moi, quand j'ai commencé, on était 5 ou 6 quand même.
Ah oui, ok. Dans le même club.
Dans le même club, oui.
C'est chouette.
Oui. Alors, ce qui était rigolo, c'est hors sujet, là, vous portez une combinaison.
Oui.
C'est tout ce qu'on trouvait pour les filles. Et il a fallu chercher parce qu'il n'y avait rien pour les filles, pour s'habiller, pour voler.
Ah oui, d'accord. Ouais. Du coup, vous portiez une salopette.
Oui, une salopette.
Trop chouette, Popé, je suis dans le
film. Et je me souviens que le premier jean d'une de mes camarades, elle avait changé la... Elle avait obturé la braguette et elle avait mis l'ouverture sur le côté parce que pour les filles c'était sur le côté l'ouverture.
Ah ok, je ouais. savais pas. C'était pas devant.
Ah non, mais okay. Non.
Tout ça c'est sordide.
C'est rigolo.
Allons, mamie.
Mais non, mais écoute, c'était les débuts, voilà.
Non, ouais, c'est très intéressant.
Bon, c'est anecdotique.
Et du coup, il y a de plus en plus de monde qui fait du planeur aujourd'hui oui. ou ça alors, se perd ou.
On a du mal. On a du mal à maintenir nos effectifs. C'est une question de temps passé sur le terrain. En fait, il faut passer toute la journée. Il faut être là le matin et on est là jusqu'au soir, jusqu'à ce que les machines soient rentrées. Ce qui fait que pour ceux qui ont une vie familiale, ça pose problème. Et donc, bien souvent, nous perdons les pilotes entre le moment où ils se marient, le moment où ils ont des enfants. Et puis, ils nous reviennent quand les enfants ont 12-13 ans. Et là, ils s'y remettent avec les enfants.
Ah oui, okay.
Voilà. Mais on les perd, effectivement, quand ils se marient.
D'accord.
Sauf quand on est tous les deux à faire du vol à voile.
Alors, ça, oui.
Voilà. Ah, bah, et oui, ça c'est...
Après, c'était... Là, faut tout partager quand voilà. on signe, quand on se marie. Et ben, le problème, c'est que, ben oui, c'est ce qu'on a fait.
Voilà, c'est ce qu'on a fait. Donc, on a eu un fils. Et donc, on se partageait la garde hein, au sol. Et à un moment, c'était moi qui étais instructeur, lui il n'était pas encore, et on volait à Chavenay, et puis moi je faisais faire la sieste de mon fils dans la caravane, et j'entendais toc toc toc, Denise, viens nous faire voler, on va le garder ton petit.
Et vous y alliez ?
Ben oui.
Évidemment. Et quand vous volez, est-ce que vous volez ensemble dans le même planeur
non.
Ou jamais ?
Alors, pendant des années, on n'a jamais volé ensemble. On était chacun dans un planeur. Et puis on a recommencé à voler ensemble il y a quelques années, voilà.
Oui, ben, quelques années, pour être plus précis. À 81 ans, j'ai estimé que je ne pouvais plus prendre d'élèves et que prendre l'avion pour remorquer, non pas que je me sentais incapable, mais bon, il peut y avoir quand même éventuellement un problème
de santé. Voilà.
Alors, j'ai cessé de prendre des responsabilités avec soit un jeune, soit derrière un planeur avec... Et puis, ben, on avait déjà prévu la chose depuis longtemps. On avait acheté un splendide planeur qui est toujours là. On vole ensemble. Cet après-midi, pour s'amuser, c'était pas terrible, on a fait un vol de 2h30, quoi, comme ça.
Voilà. Ça permet de rester à l'aise, voilà.
Alors, on pilote chacun notre tour, mais pour l'instant, c'est un peu inégal parce que j'étais un peu fatigué. Alors, j'ai très peu volé. J'ai piloté un petit peu cet après-midi.
Aujourd'hui, oui, il a piloté.
Mais bon, autrement dit, on continue.
Voilà. Ça, c'est super.
Avec un autre...
On est retraité, disons.
C'est quoi votre plus beau souvenir de vol à l'un et à l'autre, ou votre plus beau souvenir commun ?
De commun, qu'est-ce qu'on a ? On a fait des très beaux vols en Espagne.
Oui,
avec notre planeur. Oui. Hein. Avec le premier jour en Espagne, on avait remonté le planeur, et puis il y avait une situation météo qui était très bonne. J'avais rentré les données.
Ah oui, on avait les premiers GPS qui n'étaient pas vraiment opérationnels comme maintenant.
C'était quand à peu près ça ?
Oh, voilà, là, quand ça remonte, l'Espagne.
Bah écoute,
on avait 60 ans, donc ça fait au moins 25 ans.
Au moins 25 ans. Ouais. Et puis on avait fait un très joli vol, et le soir, en déloguant le total, on s'est aperçu qu'on avait fait quand même presque 500
kilomètres. 500 kilomètres, on nous compte. En fait, on avait voulu vérifier que les points qu'on avait rentrés correspondaient bien, voilà. Et donc, on a volé. Ah, on a fait 500
kilomètres 500 kilomètres avec retour au point de départ.
Oui. Hein, c'était... Voilà. Quand on a délogué le soir, on s'est rendu compte, voilà. Sinon, ben, moi, un de mes meilleurs souvenirs, c'est quand même mon vol d'ici à Bordeaux, en 75. Et lui, il a fait aussi un vol, ben, c'était mieux parce que finalement, il est revenu en Chérence. Il est allé au sud, il est remonté au nord et il est revenu en Chérence. C'était les premiers vols avec retour au point de départ. Et moi, c'était posé Bordeaux. Et après, il fallait rentrer.
Et un vol de 500 km, Vendôme, Amiens, en 5 heures pile.
Oui.
Et donc, on a dit le plus beau vol. Et maintenant, le pire vol ou le pire... le vol où vous avez eu le plus peur, est-ce qu'il y en a eu?
Oui, moi, je sais qu'une fois, en vol, j'ai failli être percutée par quelqu'un d'autre. Mais on s'est évité au dernier moment. Ça, c'est terrible. Je pense que c'est le pire qui puisse arriver. Là, parce qu'en fait, c'est pas comme sur la route. Sur la route, la tension est concentrée sur la route. Là, ça peut venir de n'importe où. Mm. Et j'étais dans une ascendance, puis l'autre est arrivé. Bon, on a vraiment fait se rentrer dedans. Voilà.
Mais c'est vrai qu'on ne voit pas. Enfin, je me rappelle quand j'étais en l'air, le pilote qui était avec moi, je crois que c'était Philippe. Il me disait essaie de voir autour de toi si tu vois des planeurs, parce que je peux ne pas le voir. Et en fait, il faut que l'œil s'habitue, parce qu'au début, j'arrivais pas à voir le planeur en l'air avec les nuages blancs, le planeur est blanc.
C'est ça.
Et d'ailleurs, pourquoi le planeur est blanc alors que les nuages sont blancs?
Alors, je crois qu'ils sont blancs pour des questions de structure. Parce que ça réfléchit. Hein. Ils ne s'échauffent pas comme ça, n'étant blanc.
D'accord.
Voilà, c'est parce que c'est pour ça qu'ils sont blancs.
Mais ils sont tous maintenant...
Non, mais maintenant, on met des bandes
réfléchissantes.
Il y a même des lampes qu'on peut mettre pour faire des éclats. J'y pense d'ailleurs à ça.
Et on peut voler la nuit ou pas?
Non. Alors, on l'a fait. Ça a été fait. Mais il y a eu beaucoup de records de durée, comme ça, enfin, de tentatives. Tous les gens essayaient de faire un peu plus, que ce soit des filles, des garçons. Et puis, malheureusement, il y a un garçon qui s'est tué au bout de 52 heures de vol. Et il s'est endormi, tout simplement.
Oui.
Voilà. Donc, ça a été interdit.
52 heures.
Mais alors, c'est le record, 52 heures de vol ou...
C'est 57, je crois. 57.
Oui. D'accord.
Mais il est question de nous réautoriser à voler de nuit. Ça peut se faire si on fait des vols de grande distance, avec en utilisant les ondes de relief ou les effets de pente. On pourrait imaginer qu'on passe la nuit sur la pente et qu'on continue après, le lendemain. Et il est question de que ce soit à nouveau autorisé. Au niveau de l'Europe.
Plutôt que qu'interdire les vols de nuit, pourquoi ils n'ont pas interdit des vols de trop longue durée?
Oui, à l'époque, c'était, comment dirais-je, on ne pensait pas du tout à pouvoir utiliser les ondes de relief qui marchent, elles, de nuit. Hein, voilà. Donc maintenant, avec l'Europe, il est possible que ça revienne.
Oui, mais maintenant, en Amérique du Sud... ils ont déjà fait des vols de 2000
km dans la journée.
Dans la journée, à des vitesses incroyables et à 7, 8, 10 000 mètres d'altitude, équipés de façon absolument extraordinaire. Et donc, les choses sont entièrement différentes depuis qu'on a interdit les vols. À la limite, on peut peut-être concevoir de rester en l'air si
toute
on a
la nuit,
la résistance physique et faire 3000 km. Quoi.
Bien sûr.
Plus.
On commence le lendemain. Quoi.
Comme les oiseaux migrateurs.
Oui, c'est exactement ça. Oui. Et le plus haut qu'on puisse monter avec un planeur.
Ah, maintenant, c'est très haut maintenant. Le Perlan, il est monté à combien? 23 km.
Alors, il y a 22, 23. Le record du monde pour l'instant, c'est un planeur stratosphérique qui a été. Remorqué à plus de 12 000 mètres. Alors, ça suppose d'avoir un remorqueur extrêmement puissant, avec tout le monde, avec l'oxygène, etc. Et puis, dans les ondes, alors là, moi, j'y connais rien, je peux dire, ils ont trouvé des ondes, ils sont montés à 27 000 mètres.
Oui, 27 000 mètres. Okay. Et on doit monter encore plus haut.
Sans essence, sans moteur. Alors, je ne sais pas jusqu'où ça ira, mais c'est fantastique.
Ça parce que nous, on a croisé des oies, on était en vol aux États-Unis. On était donc dans un avion de ligne, assez haut, et puis on voyait une espèce de ruban là, qui ondulait à l'altitude de l'avion. Et puis on disait, ce sont des oies. Elles volent aussi haut que ça.
Elles étaient à 7 ou 8 000 mètres.
Oui, oui, c'est extraordinaire les oies.
Oui, c'est incroyable.
Ah, oui.
Il n'y a pas de risque avec les oiseaux d'ailleurs
Si, il y a des risques. On peut, si un réacteur avale une oie, il s'arrête.
D'accord.
Oui.
pépite.
J'ai peut-être une question aussi. Est-ce que tu pourrais raconter comment ça se passe, le vol montagne? Parce que c'est quelque chose d'hyper impressionnant. Oui. On passe très, très proche de la paroi. Est-ce que tu peux raconter un peu comment ça se passe?
Alors là, j'en ai fait quand j'étais plus jeune. je n'en fais plus maintenant. Mais effectivement, quand il y a eu une paroi, le vent arrive et du coup, il est obligé de monter. Et à ce moment-là, on peut profiter de ce vent ascendant pour longer les parois et faire d'immenses vols à très haute altitude en montagne. Simplement, en montagne, s'il n'y a plus de courant ascendant, ce n'est pas facile de se poser, les vallées sont étroites. Donc, en général, tous les pilotes qui volent en montagne ont un répertoire avec tous les champs atterrissables. Et donc, on leur demande d'aller les voir, parce qu'ils vont les avoir vus avant. Ils sont assez difficiles à négocier. Il faut toujours être en local dans le champ atterrissable, sinon c'est une catastrophe. Mais sinon, ils font des vols extraordinaires en montagne. Oui. Mais maintenant, on fait les mêmes vols en plaine. Avant, les 1000 km, c'était réservé aux gens qui vont de la montagne. Et maintenant, on fait des vols de 1000 km en plaine. Donc, voilà.
Ça doit faire peur en montagne, non?
Oui, c'est quand même très impressionnant. Mais c'est beau, hein. On arrive à aller dans les glaciers, c'est magnifique.
Oui, ça doit être incroyable.
C'est très beau, mais il faut connaître. Hein. Voilà. En pleine, c'est quand même plus facile. Oui. C'est plus facile si on se fait avoir des champs. Cette saison, ils sont tous moissonnés. Ce sont des aérodromes, il n'y a aucun risque.
Oui.
La montagne, c'est plus délicat.
C'est une leçon d'humilité, quoi. C'est comme à pied, la montagne.
Oui.
On peut changer très vite.
Oui, tout à fait. Il faut bien connaître. Ah, oui. Donc, si on a appris en montagne, il n'y a aucun souci. Mais les pilotes de plaine qui vont voler comme ça en montagne 15 jours, bon.
Et puis, il y a une épreuve pour monter très haut. C'est donc
le gain de 5000 mètres.
Il y a un gain de 5000 mètres à réaliser. 5000 mètres, autrement dit.
Ça, c'est en montagne.
Si on est largué à 1000 mètres, il faut au moins monter à 6000 mètres, largement au-dessus de... Du Mont Blanc. Alors nous, on a fait ça
à Avignon.
À Avignon. Et je me souviens du Cassis, qui était quand même un planeur assez très bien à l'époque, avec la bouteille d'oxygène et autres. Et depuis Avignon, largué assez haut, quand même au moins à 1500 mètres, derrière le Luberon, comme on dit maintenant, et trouver le mouvement ondulatoire qui montait régulièrement. Et à 6500 mètres, je me suis dit, ça doit être gagné. Alors, je voulais rentrer. Mais les commandes commençaient à être dures.
Givrées.
Parce que la graisse était probablement figée. Ouh là là, je suis vite allé un peu plus loin. Parce que je savais que si ça montait là, ça allait descendre. Il n'y a pas de mystère. Donc, en allant à l'endroit où ça descendait, j'ai moins 7, moins 8, moins 10. Et puis, j'ai récupéré le planeur. Mais je suis sûr d'avoir vu depuis Avignon le Mont Blanc. Il y avait une visibilité quand même à 6500 mètres qui était extraordinaire. Et puis peut-être, mais en poussant un petit peu trop, peut-être le bout de la Corse, tellement c'était haut. Alors quand on a des paysages comme ça, alors là, on n'est pas prêt de les oublier. Hein, ça,
on n'est plus haut que les avions de ligne, quelquefois.
Et sans prendre le moindre risque, hein. Sinon d'être bien habillé, parce que je savais que si je montais, tant mieux, mais en haut, c'est...
Quand on se pose, on a les pieds presque gelés, hein. Il faut les réchauffer, oui.
Et tu as pris le même planeur.
Cette année-là, donc tous les messieurs ont fait leur vol d'altitude sur le Cassis, et moi j'avais un javelot. Donc pendant 2-3 jours, j'arrivais jamais à monter suffisamment haut.
Il était moins performant.
Et après, il y avait la nuit, il fallait que je redescende. Et enfin, le dernier jour, quand tous ont fait leur 5000, on m'a donné le Cassis et j'ai fait mes 5000.
Il y avait toujours le même système ondulatoire.
Et sinon, pour ma thèse, effectivement, j'ai étudié les ondes de relief dans les Pyrénées. Et là, on est monté à 8500 mètres plusieurs fois avec des biplaces. On avait mis des instruments de mesure dans les planeurs. On a dépouillé ça et c'était la base de ma thèse.
D'accord. Voilà. Dans les Pyrénées.
Les Pyrénées.
Ok.
À Saint-Girons, voilà.
Ok, d'accord, Saint-Girons.
Parce qu'au final, t'as très bien marié ton parcours universitaire avec ta passion du plein air.
Tout à fait. Mais ça m'a été reproché à une époque.
Ça faisait pas sérieux.
Ça faisait pas sérieux. Pour les océanographes, c'était normal d'aller faire des mesures en bateau. mais pas pour les gens qui faisaient de la météo. Faire du planeur, c'était un amusement. C'était pas toujours un amusement parce qu'on s'est bien fait secouer. C'était pas toujours facile. Mais bon, on a fait des mesures que j'ai mis beaucoup de temps à dépouiller. Donc ma thèse, elle a duré 7 ans.
C'était ah oui, long. Quand même.
Une vraie thèse, quoi.
C'est une thèse d'état, quand même. Ouais. Voilà. Ouais. Mais on a fait les mesures, puis après, il a fallu dépouiller. Donc, à l'époque, on n'avait pas d'enregistreur comme ça. C'était des enregistreurs photographiques. Donc, c'était sur des rouleaux de papier. Donc, tous les soirs, on faisait la lessive. On développait les rouleaux. Et puis après, à la pointe sèche, il fallait faire des mesures comparées aux étalonnages. Heureusement, j'ai été aidée pour ça. J'ai une technicienne qui m'a aidée. C'était un travail de bénédictin.
Et vous mesuriez quoi exactement?
Alors, on mesurait la vitesse verticale du planeur de façon à retracer l'écoulement du latoir derrière les montagnes.
Voilà.
C'est une vie assez particulière.
Oui, c'est une vie assez incroyable et c'est aussi pour ça qu'on est là. En fait, c'est 1000 vies en une, quoi.
Oui, tout à fait.
C'est vraiment ça.
On a fait beaucoup de choses.
Il y a une communauté qui est largement plus importante que celle qu'on peut trouver normalement. Parce que quand on va dans les autres pays, vous voulez faire du vol à voile aux États-Unis, au Québec, en Australie.
On élève notre petit insigne.
Il y a la communauté, il y a les brevets. Là. Bon, on fait un tour de contrôle, bien sûr, quand on arrive pour voir comment ça se passe. Et puis après, ben, on va. Où est-ce qu'on a volé aussi? En Pologne.
Oui.
C'est extraordinaire. On trouve toujours des gens qui ont le même. Ils sont pas nombreux, hein, mais si on traîne un peu les savates sur un terrain de vol à voile moteur, on les trouve. Et alors là, c'est la joie sans limite, quoi.
Nos meilleurs amis, on les a rencontrés en Australie.
Ce sont des Américains.
C'était des Américains.
Et les Allemands.
Ouais, et le monsieur, donc, lui, a fabriqué un planeur stratosphérique. Il n'est jamais allé dans la stratosphère, mais il l'avait complètement étanché. Et il nous a autorisé à voler sur son prototype. Ça aussi, c'était une expérience incroyable. Parce que,
l'alcor.
Oui, l'alcor. Et donc, il est pendu au musée de Seattle, maintenant, au plafond. Et donc, on était les deux seuls Français, je crois, volés dessus.
Oui.
C'était rigolo comme tout, parce qu'on était sur un tout petit terrain. On ne connaissait pas la machine. Qui était au sud du terrain, il y avait une autoroute à je ne sais pas combien de voies, avec des grands lampadaires. Et donc, il fallait arriver à se poser précis sur ce petit terrain. Et on connaissait pas du tout le planeur. Et alors c'est Michel qui a fait le premier vol. Moi j'étais pas très rassuré. Ça se passerait bien.
Avant de la faire, quand vous voyez qu'on avait le visage qui s'allongeait là, Bob, donc le pilote des 7 Boeing qui avait construit cet engin, dit mais Michel, si tu veux pas voler, hein, y a pas de problème.
En fait,
un planeur avec un grand E expérimental, etc.
On n'était pas assurés.
Et on s'était rencontrés en Australie. Il nous avait invités. C'était plus le moment de.
Voilà.
Alors ouais. Bon,
on a parculé.
C'est les galères.
Et puis j'ai fait le premier vol. Bon, on avait un planeur de 20 mètres aussi.
Oui.
Ici, un monoplace de 20 mètres, ça y ressemblait diablement, si ce n'est que il était
étanche.
Complètement étanche. Et alors, au bout de quelques minutes le pare-brise était complètement
dans
le côté de la main droite et puis avec
la main gauche et le mouchoir.
Pour y voir à l'extérieur. Alors, pour se poser avant les fameux lampadaires là, que disait Denise, c'était tout de même pas très marrant. Alors, l'atterrissage, j'ai dit, oh ben, il vole très bien. Alors, qu'est-ce que je fais? Je peux faire un vol? Alors, il va y faire un vol.
Et alors, on était
les deux Français à voler là-dessus.
Moi, j'ai pas eu de buée, finalement, parce que on n'a pas la même capacité thoracique. J'ai pas fait. Moi, ça s'est bien passé.
Alors, ça fut une vie d'expérience.
C'était rigolo.
De tout poil.
Et le planeur stratosphérique, la sensation était différente aussi?
Non, c'est sympa qu'il était complètement étanche. Il était destiné à se pressuriser.
Ah,
en fait, il n'avait pas terminé la pressurisation, mais le planeur était étanche. Les commandes étaient faites de telle façon qu'il était étanche.
Ah. Voilà. Et toutes les commandes étaient, disons, sur des axes...
rotatifs.
Il n'y avait pas de vide.
Oui.
Donc, ça passait dans l'arrière du cockpit, et puis avec la rotation, il commandait la profondeur, la direction et tout. Et tout.
Il était beau, son planeur.
Très joli.
Il était très beau, son planeur. Donc, Alcor, c'est le nom d'une étoile.
La plus petite étoile visible près du.
Oh,
près du...
Plus maintenant, à l'œil nu, je ne sais pas.
Si, si. Il y a une grosse étoile dans le Grand Ours,
oui.
Plus laquelle, et Alcor est tout à côté, toute petite, petite. Alors ça voulait dire que quand on voit Alcor, ben vous avez une sacrée...
On a de bons yeux. Oui.
Incroyable.
Pour, peut-être on n'a pas parlé de ton parcours universitaire, si on revient un peu là-dessus, on changera un petit peu l'ordre. Donc, tu as fait une thèse
en
météorologie.
Oui.
Tu étais professeur ensuite.
Oui, j'étais professeur. Ah, j'ai fait comme le chien loup, lequel qui vient chien loup. j'ai commencé à Toulouse, parce que j'ai fait mes études à Toulouse, donc j'étais assistant. Et j'ai fait 7 ans au CNRS, et je suis revenu à l'université, puisque j'étais détaché au CNRS. Donc là, ben, je suis devenu maître de conférence. C'était maître assistant à l'époque, maître de conférence maintenant. Et j'ai réussi à devenir professeur. Ce qui n'était pas évident à Paris 6, parce que Paris 6, c'est un fief de normaliens, de polytechniciens. Et moi, arrivant de ma province, c'était pas facile. Mais ça a marché, voilà. Donc j'ai terminé professeur. Et c'est là que je me suis décidé, une fois que j'étais professeur, à faire la section vol à voile. Parce que sinon, oh là, je m'étais tenue tranquille, vu que une fois, on avait demandé à mon directeur de thèse, et Madame Cruette, où en est-elle de sa thèse? Ah, elle fait du vol à voile. Oh, ça va pas porter chance. Voilà. Oui, je faisais des mesures en plein air, mais je faisais pas de vol à voile. C'était... Il était maladroit.
Ah oui.
Voilà. Donc j'ai complètement dissocié les deux trucs. J'en ai plus parlé pendant un certain temps. Et puis une fois que j'étais dans le professeur, d'accord. J'ai repris ma passion.
Ça se fait encore. Quand j'étais à la Réunion, j'avais rencontré des volcanologues qui passaient dans les nuages de cendres avec des ULM pour mesurer.
Oui. Avec des ULM ou des machins.
C'est des ULM, c'est des AFK9 biplace. Apparemment, les concentrations étaient très, très légères, donc on est passé sans avoir de problème sur les moteurs.
Mais ils avaient des bouteilles d'oxygène pour respirer.
Je crois pas. Mais bon, c'est Python de la Fournaise, donc c'est pas.
Oui, voilà. Oui, mais enfin bon,
ouais.
On peut être intoxiqué.
C'est vrai.
Tu t'intoxiques en avion si par hasard tu as de l'oxyde de carbone qui... donc
bon, il le faisait.
Un volcan, oui, bon, mais voilà. Non, moi j'ai pas fait des choses aussi folles.
Presque quand même.
Non, on n'a pas pris de risque. Les mesures que j'ai faites pour ma thèse, c'était avec des instructeurs de la montagne noire, on est sur des biplaces. Non, j'ai pas pris de risque, c'était...
Tu étais instructeur planeur, instructeur avion?
Non, uniquement planeur.
D'accord.
Et je suis formateur d'instructeur aussi.
Et cette année... Instructeur d'instructeur.
Oui, voilà. Et cette année, on a encore formé quelqu'un.
Mmh. Combien d'élèves alors tu as formé?
Oh là là, je ne sais pas. Mais beaucoup. Et extraordinaire. J'ai reçu il y a 8 jours ou 10 jours une lettre d'un élève de Paris 7 que j'avais fait voler donc à l'époque parce qu'il y avait deux sections, il y avait Paris 6 et Paris 7. Et il me dit, qu'est-ce que tu deviens? Tu sais, j'ai deux filles maintenant, et la deuxième, son deuxième prénom, alors la première, son deuxième prénom, c'est Amélia Erhardt, enfin Amélia, et pour la deuxième, j'ai mis ton prénom. je sais plus ce qu'il avait trouvé comme instructrice, mais tu vois, il se souvenait de moi, je l'avais lâché. Et donc ça, c'est extraordinaire.
Oui, ça ne m'étonne pas que vous marquiez les gens. Ça ne m'étonne pas du tout. Vous gardez contact souvent avec les élèves
que vous avez.
C'est une grande famille, comme vous disiez,
oui,
Michel.
Oui, tout à fait.
Et même international, donc.
Oui.
Non, là, je revenais pas. je prends sa grand-mère, oui. Donc voilà, j'ai une petite fille qui porte mon prénom.
Qui va probablement se mettre au vol à voile un jour.
Ça, c'est différent, ça.
Mais on en a une qui est maintenant copilote sur. On en a une qui a été ici élève et qui est copilote sur 777.
Oui, parce que c'est un point de départ pour certains d'une longue carrière aéronautique.
Ah oui.
Voilà, donc rien que pour ça, je regrette vraiment pas d'avoir consacré beaucoup de temps à l'instruction. D'abord parce que quand tu enseignes dans un amphithéâtre, tu rentres par une porte, tu as 200 étudiants devant toi, tu débites ton cours et après tu sais pas. Alors au moment d'examen, tu prépares tes questions d'examen et quand tu vois les résultats, tu dis « Oh là là !» Bon, tu es très déçue, tu dis, j'ai pas été bonne. Donc là, en plein air, c'est différent parce que tu prends quelqu'un qui a jamais volé, tu lui fais faire une dizaine d'heures. Et puis tu descends du planeur un jour et tu lui tiens l'aile pour qu'il parte tout seul. Mmh. Ça, c'est extraordinaire.
Parce que le planeur, il y a aussi la passion hein, qui va avec, je pense.
Ah oui, et puis quand on lâche un élève, j'en avais un qui était très très doué, qui se débrouillait très bien. Alors il me dit, quand est-ce que tu me lâches? Je te lâcherai. Le moment venu, bon, il part, il est pas content. J'étais un très bon, il était lâché au bout de 2 ou 3 jours après. Écoutez, la dernière dit que vous moi la paix, je sais ce que j'ai à faire.
C'est le jour quand tu seras prêt, voilà.
C'est le jour pour lâcher un élève. C'est pas parce que tout est rigoureusement parfait, ça sort du bouquin, on récite, on fait. Non, c'est est-ce que le gars semble à l'aise, si il essaie répondre instantanément à des choses qui peuvent arriver, et puis c'est tout. Alors le jour du lâcher, il a fait son vol, mais il dit, puis après l'atterrissage, il dit, mais tu m'as rien dit en l'air. Ben, je dis non, j'avais la radio, mais il y avait rien à dire, c'était parfait, donc j'ai rien dit. Ah bon.
C'est vrai que si on donne un petit mot où ça se largue, tout va bien. Ça rassure qu'un élève, parce que c'est vrai que brusquement, il y a plus quelqu'un derrière pour te se conseiller.
Oui, mais avec tout seul à bord, voilà. Avec la radio, on peut.
Oui, on peut rattraper pas mal de choses.
Mais quand tout se passe bien, Dieu sait si on suit là, pour la prise de terrain celui qui vient d'être lâché. Quand ça se passe bien, pas bah, lui dis rien. Mais c'est comme ça que ça se passe toujours.
Et en jeune instructeur, j'ai fait 3 lâchés le même jour. Mes 3 premiers lâchés. J'étais épuisée le soir. Ça s'est très très bien passé pour les 3, mais c'est vrai que j'étais épuisée. Alors parmi les 3, il y en a un qui était moniteur d'équitation. Il m'a dit, tiens, maintenant, je vais faire un tour de cheval. Ah bah très bien, ok. Mais c'était vraiment... Bon, et il m'a mis accru sur le cheval. Et il m'y a laissé un certain temps, ce qui fait que quand je suis enfin descendue, j'avais les élastiques de ma culotte qui étaient rentrés dans les fesses. Je t'ai tant fait souffrir que ça. Et j'en ai un autre que j'avais lâché, il était bijoutier. Et quand j'ai eu ma couronne de diamant, enfin mon insigne de diamant, il m'avait fabriqué un petit insigne d'or avec 3 insignes de diamant.
Alors qu'est-ce que c'est ces insignes?
Alors, ce sont les insignes de la Fédération Aéronautique Internationale. Ce sont donc des insignes qui sont de par le monde. Ça commence à l'insigne D, disons maintenant, l'insigne d'argent. Donc, c'est 3 mouettes entourées d'une couronne d'argent. Il faut faire un vol de 50 km, un gain de hauteur de 1000 mètres et un vol de 5 heures. Ensuite, il y a l'insigne d'or. L'insigne d'or, c'est un vol de 300 km. Et un gain d'altitude de 3000 mètres. Et l'insigne de diamant, donc c'est la couronne d'or avec 3 petits diamants dessus. Il faut avoir fait un gain de 5000 mètres, un vol de 500 km, et donc un vol de 300 km, mais soit en triangle, soit en aller-retour. Voilà. Donc,
et un gain de 5000.
Et maintenant, ça ne s'arrête plus. On a des insignes pour un vol de 750 km, 1000 km, 1250 km. 500 km. Oh là voilà. Là. Nous, on s'est arrêté à l'insigne de diamant.
Pour dire tout ce qu'on peut faire avec un planeur.
Oui, c'est... Voilà. C'est incroyable.
Pour les gens normaux, c'est pas évident, ils racontent n'importe quoi. Et puis, mais vous faites des vols comme ça, oui, sans essence, sans rien, on est largué, et puis il faut connaître.
On croise des oiseaux. Oui. Hein, tout à l'heure, oui, on avait deux bus
qui
nous montraient où c'était.
Qui volent avec nous.
C'est vrai qu'on peut se repérer par rapport aux oiseaux. Voilà.
Mais cette année, on n'a pas vu beaucoup d'hirondelles, parce que souvent, on rencontre des hirondelles. En fait, les moucherons sont aspirés par les ascendances, et elles chassent dans les ascendances. Mais cette année, je n'ai presque pas vu d'hirondelles.
Oui.
Par contre, des bus, on en voit de plus en plus.
Ah, oui.
Elles nous évitaient il y a quelques années, et puis maintenant, elles volent avec nous.
Mais on peut se poser la question, quand on les voit arriver, est-ce qu'elles ont vu spiraler et puis donc section, ou l'inverse, quand on voit des bus spiraler, nous on y va, on chacun notre tour.
Et maintenant elles restent.
Elles ont compris.
Elles restent avec nous, elles n'ont pas peur. Par contre, il faut se méfier des aigles. Les aigles, ils attaquent.
Ah oui.
Ah oui, ils peuvent vraiment attaquer
le cockpit.
Oui, le cockpit. Si on passe à côté de leur nid, alors là, ils sont furieux.
Ils ont peur pour.
Ouais. Et les vautours aussi attaquent. Hein. Mais les buses, non, c'est pas très grand. Et puis, non, là, elle joue avec nous, elle nous montre où c'est rigolo. C'est...
On les rencontre, là. Bon, aujourd'hui, on avait à 1000 mètres aujourd'hui, à peu près 1000 mètres.
Moi, j'aime bien rencontrer les buses.
C'est vrai qu'on imagine qu'une attaque d'aigle sur un planeur, un 4S en bois et en toile.
Ouais. Ça peut faire du dégât. Hein.
Tout à fait. Et on vole quelquefois avec des cigognes aussi.
Oh là là,
ça m'est arrivé, c'était ici, il y a des cigognes qui sont dans la baie de Somme et qui devaient migrer. Et donc, elles étaient plus bas que moi. Je dis, tiens, c'est bizarre, c'est. Puis ça montait, plus ça montait, plus c'était gros. Et puis, elles m'ont dépassé, et puis elles sont parties en transition. Voilà.
Le planeur le plus léger, il pèse combien ?
Ah, on a des planeurs ULM, ultra légers, hein. Enfin, ULM. Alors, le nôtre, qui est un petit peu lourd, à vide, il fait 420 kilos.
D'accord.
Et donc, avec nous à bord, ça fait 600 kilos. Bon.
Non, mais là c'est un lourd biplace de 20 mètres d'envergure, mais le plus léger, maintenant, il y a des planeurs monoplace de 13 mètres d'envergure, des toutes petites machines, disons, avec moult carbone et autres, et qui pèsent à peu près 100 kilos.
Ah oui, c'est super léger.
Mais qui ont quand même des performances intéressantes. Hein.
Oui, mais ils ne peuvent pas aller vite.
Non, mais voilà. Non, on ne peut pas tout avoir. Tandis que nous, on voit quand même...
Pour aller vite,
on fait des circuits à 100 km/h.
Pour aller vite, on met de l'eau dans les ailes. On charge le planeur. Donc, plus il est lourd, plus il faut le faire voler vite pour qu'il tienne. Et du coup, on a le même angle de planer. Et ça permet donc de faire des plus grandes distances.
D'accord. Et donc l'eau, on le met avant de partir.
Oui, voilà, avant de partir, voilà. Et donc, si on s'aperçoit que c'est pas aussi bon que prévu, on vide l'eau. On peut vider.
Donc, il pleut sur la ville.
Voilà. Alors, si on est en compétition, il ne faut pas faire ça sur nos concurrents.
mais quand on a des grosses gouttes d'eau sur les ailes, quand il pleut, moi, j'ai un moment d'inquiétude parce que les gouttes d'eau sur le. Ça dépend du profil.
Sur un twin, moi j'ai
vu ça. Ah oui. Il y avait des gouttes d'eau qui restaient quand même, qui n'étaient pas parties. Donc il y avait un endroit où la couche.
Oui, la couche n'était pas la lumière.
C'est que ça détruit les caractéristiques du
aérodynamique.
Profil. Et pour l'atterrissage, c'était bizarre. Oh, j'ai pris 20 km/h de plus parce que. Et puis, ça s'est bien passé. Mais disons, si c'était un débutant qui ne connaissait pas la chose, il aurait pu dire, je continue à 100 km/h. Mais là, je crois qu'il risquait fort d'avoir des ennuis. Hein.
Et puis, le planeur est moins fin. Donc, on peut avoir des difficultés pour rejoindre le terrain.
Oui, c'est comme une Formule 1, en fait. Hein. La moindre poussière, la moindre aspérité. Ça détruit les performances d'une aile, en fait, parce que c'est très très fin, très allongé. C'est très très sensible.
Je ne me rends pas compte.
Les traces de moustiques et autres sur les ailes, quand on. Alors là, ça détruit un peu les performances de la voilure.
Tout à fait.
Pour de vrai, même un moustique, juste un moustique.
Ah oui, pas un seul.
Oui.
Mais si le vent d'attaque est constellé de petits moucherons et moustiques.
C'est vrai que.
Le planeur n'a plus les mêmes performances.
On doit les laver à chaque fois.
Oui,
c'est ça. Même quand on avait fait de l'avion avec Aurélien, on avait lavé l'avion.
Oui.
Pareil, pour vous, pépite, ça évoque quoi ? Le mot pépite, ça évoque quoi ?
Ah, moi, je vois une pépite d'or. Je vois quelque chose, d'intéressant, quoi. Une pépite, c'est... Oui, c'est riche, une pépite, voilà. Oui. Quand on dit pépite, oui, c'est une pépite, c'est... Oui, c'est quelque chose de précieux, voilà.
Oui.
Oui, puis même, si les conditions météo ne sont pas extraordinaires, comme c'était le cas aujourd'hui, on n'est pas parti de bonne heure parce que... tu nous avais dit que finalement il y a du mauvais temps qui arrivait. Et puis, bon, les nuages étaient quand même un petit peu bas et tout. On est parti pour à 4 heures, on s'est posé à 6h30. Donc on peut quand même faire des vols très
simplement voler,
oui.
Regarder le paysage. On s'est régalé ce soir, c'était oui. beau.
C'était tout simplement couvert, beau. Mais voilà. De temps en temps, il y avait des taches de soleil qui allaient jusqu'au sol, quoi. Alors, c'est joli.
Et puis, piloter, c'est un peu comme jouer d'un instrument.
Oui.
Voilà. C'est, quand on arrive bien à maîtriser la machine, je pense que c'est, on a le même plaisir que l'artiste qui se sert d'un violon ou.
Oui. Et chaque mélodie est différente.
Tout à fait. Chaque vol est différent. On se lasse pas. Voilà, on se lasse pas.
Denise est membre élue du conseil d'administration de l'AAVO, Association Aéronautique du Val d'Oise. Elle a créé le club aéronautique du CNRS, puis la section vol à voile de l'AS Paris 6, qui faisait partie jusqu'au début de l'année 2022 des associations constitutives de l'AAVO. Celle-ci était en effet une association d'associations. De nouveaux statuts votés en début d'année ont transformé l'AAVO en association constituée de membres individuels. Concernant l'AVEP, Association Vélivole des étudiants de Paris, elle en est secrétaire générale. Elle a été fondée en mars 2022 et va véritablement entrer en action pour l'universitaire à venir. N'hésitez pas à aller tester le planeur, à rencontrer Michel et Denise. Merci. Je suis Marie Boubila, élève de la promotion 2022 du Master 2 de Management de la Technologie et de l'Innovation à l'Université Paris-Dauphine et aux Mines ParisTech, MTI pour les intimes. C'est Jérôme Anton qui a monté les différents épisodes du podcast. Il a aussi composé le jingle de Pépite avec Maxence Duhamel-Carpentier. On les remercie beaucoup pour ça.